Salut, c'est Odile.
Salut, c'est Olivier.
Salut, c'est Nathalie.
À la bonne heure, le mag Région Sud-Est.
Des musiques, des chroniques, des invités.
De midi 10 à 13h.
À la bonne heure.
Quoi ?
À la bonne heure.
Sur Fréquence Mistral, bien sûr.
Bienvenue au magazine régional Sud-Est de Fréquence Mistral.
Il est midi 24, nous sommes sur Fréquence Mistral depuis Briançon dans le magazine du midi. Nous sommes aujourd'hui avec le professeur Raymond Sirieau, notre invité du jour, président de l'association Centre Briançonnais de géologie alpine et en charge de la gestion et de l'animation de la maison de la géologie et du géoparc sur la commune de Puy-Saint-André. Notre magazine aujourd'hui se consacre à la fête de la science dont la thématique cette année est Océan de savoir. Et donc aujourd'hui, nous allons parler avec Raymond Sirieau de l'océan alpin. Il y a eu un océan dans nos Alpes alors?
Oui, il y a un certain temps, mais il n'y est plus. Parce que quand on dit un océan, on pense surtout à de l'eau dans un grand trou, avec une certaine profondeur, de l'eau salée. Et là, à 2500 mètres d'altitude, on n'a pas cet océan, on peut pas aller s'y baigner. Il y a bien quelques mares, quelques lacs, mais l'eau n'est pas salée. Et il y a surtout des roches qui ne sont pas fréquentes, parce que chez nous, on trouve, par exemple, dans la Durance, énormément sur les escarpements de part et d'autre de la Durance, on a des roches sédimentaires avec des strates, des couleurs, etc. Bon. Et nos sommets les plus emblématiques, Pelvoux, Meige et Crin, sont faits de roches qu'on appelle des granites et qui n'ont rien à voir avec les roches, justement, de notre perle du Chenaillet. Ce sont des roches qui sont continentales, c'est-à-dire elles constituent le socle des continents. Quant aux roches sédimentaires dont j'ai parlé, c'est la couverture de ce socle. Et puis là, on trouve des roches totalement différentes, qui n'ont rien à voir, alors qui ne sont pas disposées d'une manière quelconque, c'est pas aléatoire. On a là un fond océanique. Alors un fond océanique, on se dit souvent, c'est finalement un océan, c'est un trou dans le continent dans lequel il y a de l'eau salée, c'est profond. En réalité, ces roches continentales dont nous avons parlé ne constituent pas du tout le fond des océans. Le socle océanique est constitué de roches totalement différentes et qui sont, dans le massif du Chenaillet, agencées de manière géométrique, de bas en haut, d'une manière parfaitement identique à ce que l'on pourrait trouver, par exemple, dans l'océan Atlantique. C'est évident que ces roches-là ont été étudiées depuis très longtemps, puisque la géologie est une science très ancienne dans nos pays européens. Ça fait plusieurs siècles, on a là quelque chose qui était tout à fait particulier, parce que je suis arrivé en 71 au lycée de Briançon, j'avais un collègue professeur d'EPS qui me dit « Tu connais le Chenaillet ?» J'ai dit « Ben non, j'arrive. » Il me dit « Écoute, si tu as un moment, dans un ou deux jours, on y va. » Je suis allé là-bas, entre Montgenèvre et Servières, et j'ai vu des roches tout à fait particulières. C'était les années 70. On n'avait pas trop visité le fond des océans. On était capable des océans vrais, actuels. On était capable de draguer des roches. Ça, c'était intéressant parce que on draguait des roches et puis les roches que l'on trouve au Chenaillet, c'était un peu les mêmes.
Que signifie draguer une roche?
Draguer, ça veut dire qu'on va, ceux qui vont ramasser des poissons massacrés au fond des océans, mais là on envoie des filets effectivement, puisqu'on n'avait pas encore la qualité de ce que l'on fait aujourd'hui. Et puis on remonte les roches comme ça, et puis on se dit tiens, celle-là, mais elle est au Chenaillet, oh, mais celle-là aussi. Donc on se disait il y avait quelque chose. Et l'exploration des fonds océaniques s'est faite surtout à partir des années 70, et notamment en 1973, Là, il y a eu des films qui ont été faits, puisqu'on avait à ce moment-là des... C'était plus des bathyscaphes comme Picard, qui est descendu dans la fosse des Mariannes à 11 000 mètres, en record. C'était des petits sous-marins, des sous-marins de poche, et qui étaient capables de naviguer dans les grandes profondeurs. Et là, les films ont montré, finalement, à quoi ressemblait un fond océanique. En tout cas, le fond océanique de l'océan... alpin, de celui qui est devenu l'océan alpin, fossile bien sûr, et celui de l'océan Atlantique, mais aussi celui de l'océan Pacifique, parce qu'il ne faut pas s'y tromper. Tous les océans ne sont pas pareils. Il y a les océans rapides, pressés, qui produisent 20 centimètres de roches complémentaires de part et d'autre du lieu de naissance, qu'on appelle dorsale. C'est dans le Pacifique, ça avance, ça grandit. L'océan Atlantique, il est plus posé, plus bourgeois, il avance, lui, à 2 centimètres par an. Mais il avance quand même.
Et auquel ressemble notre océan, alors ?
Eh bien, justement, à l'Atlantique. Ah ben on n'est pas du sud pour rien, on aime bien prendre notre temps, on va pas courir après des fantasmes ou des billes visées. Non, on essaie de vivre dans notre pays le moins mal possible. Et je sais, si moi, Marseillais, quand je suis arrivé à Briançon, il n'a pas fallu plusieurs semaines avant que je me dise je resterai là. Parce que il y avait le climat à l'époque qui est un peu aujourd'hui taraudé, mais bon, le climat était magnifique. Et puis, il y a la neige, il y a le ski, il y a le sport, la ville est sportive. Enfin, on est au paradis. Les gens ne se rendent pas compte. Il suffit qu'ils aillent ailleurs pour se rendre compte qu'ici, on est au paradis. En tout cas, au paradis de la géologie aussi.
Et justement, la découverte de cet océan a peut-être aidé le Marseillais que vous êtes à apprécier ce territoire.
Ah oui, forcément. Forcément, parce que dans l'enseignement, il fait partie d'un objet, comment dirais-je, extrêmement central de la géologie. Pourquoi ? Parce que la Terre fonctionne. Wegener, en 1912, avait dit, les continents étaient réunis, puis les continents se séparent, et puis se réunissent, etc. Ce qu'on appelle un cycle, dit de Wilson, non, importe peu, mais c'est un cycle. Et dans le cycle, il y a 5 parties. 4 concernent l'océan, sur 5. C'est dire l'importance, qui a fait dire à certains auteurs d'ouvrages scolaires, pour des premières et terminales, dans les lycées, la clé de la tectonique des plaques est au fond des océans. Évidemment, dans un cycle, 4/5 du temps est consacré à ça. Bon, vous allez me dire, le 5e, c'est quoi ? J'ai dit, c'est la montagne. Tout cycle aboutit à la montagne, mais il a fallu une longue maturation, une préparation, des prémices, on est près de l'accouchement, on accouche, on fabrique l'océan, et puis il meurt. Mais oui, il est mort. Vous voyez, l'Atlantique, lui, il est encore vivant. Parce que l'océan alpin, il est né en même temps que l'Atlantique central.
Quand ça, alors ?
165 millions d'années.
Difficile d'imaginer.
Oui. Lui, il était tout petit. En réalité, c'était le frère jumeau de l'Atlantique central qui, lui, était né un petit peu plus tôt, mais comme on est sur une sphère, si vous ouvrez quelque part quelque chose, ça peut se déchirer un peu plus loin. En gros, c'est ça qui s'est passé. Et d'ailleurs, l'océan Atlantique central s'est bien développé. Il a même eu l'Atlantique sud, il y a eu l'Atlantique nord. Quant à l'océan alpin, qui s'était ouvert en même temps comme une déchirure associée, il est mort. Mais il est mort parce que, finalement, pour arriver à vivre, il faut que personne n'essaie de vous détruire. Or, les plaques, les fameuses plaques lithosphériques, que les gens appellent aussi plaques tectoniques, mais tant vaut-il utiliser l'expression, même si c'est plus long de dire lithosphérique que tectonique, les deux mots, de toute façon, sont compliqués. Si on demande lithosphère tectonique, tout le monde ne le sait pas. Donc, c'est des plaques. Alors, ces plaques bougent. Et lorsque l'océan Atlantique est né, donc central est né, il y a eu cette petite déchirure associée. Et puis, l'Afrique, parce que quand vous ouvrez dans la Pangée, le continent unique au départ, vous faites bouger les continents qui se sont fracturés. Vous avez les Amériques, vous avez l'Europe, vous avez l'Afrique. Et l'Afrique, ben, elle a été repoussée par l'océan qui fonctionnait, qui écartait ces continents en se développant. Au départ, ça part sur les côtés, alors ça part vers l'Est, quoi. Et puis, à un moment donné, vous ouvrez l'Atlantique Sud. Alors, l'Atlantique Sud, il donne un petit coup de coude, il fait remonter l'Afrique. Alors, l'Afrique remonte. Mais juste en face de l'Afrique, il y a un autre océan alpin. Alors, l'Afrique, c'est l'Italie. L'Italie est un promontoire africain. Eh bien, ce promontoire africain, c'est lui. C'est lui qui a fermé l'océan. En réalité, l'océan, il est passé dessous. Il y avait l'Europe, l'océan, l'Afrique qui montait, bah, il est passé dessous et il est mort.
Il était grand comment ? Il recouvrait quelle surface ?
Oui, alors d'après les, alors ça, c'est les géologues discutent, mais pour être raisonnable, on peut dire qu'il pouvait faire quelques 1500 à 200 kilomètres sur 1000 à peu près. Il n'a pas été bien grand, mais enfin, il existait en tant qu'océan. C'était un océan au sens, c'était un espace océanique. Parce que je veux pas qu'on pense simplement océan haut. Hein, ce sont des roches différentes qui sont nées par un processus que nous n'aborderons pas, mais il y a une façon de créer ces roches qui est forcément différente de la façon de créer les roches continentales.
Il y avait de l'eau.
Ah ben oui, forcément, parce que comment, si vous voulez, les étapes pour les quatre étapes qui aboutissent finalement à la mort de l'océan et après lesquelles il y a la montagne, c'est que vous avez le continent qui va subir des secteurs d'étirement. Ça s'étire. Alors quand ça s'étire, la croûte continentale elle le fait 30 kilomètres. Vous l'étirez, ben vous l'amincissez. Si vous amincissez, vous creusez. Si vous creusez, il y a de l'eau autour qui rentre dedans. Mais à un moment donné, vous étirez. Ah ben, ça casse. C'est devenu tellement mince, la croûte continentale est devenue tellement mince, que ça casse. Et c'est au niveau de cette cassure qu'il y a 165 millions d'années, les roches océaniques sont nées. Et puis elles se sont développées, alors lentement, puisque c'est l'océan alpin, mais l'océan Atlantique, ça se développe plus que ça. Mais et donc ça s'étire. Puis quand même en s'étirant comme ça, enfin en se développant, les roches océaniques viennent se mettre les unes à côté des autres, repoussent les unes les autres, ça grandit. Mais avec le refroidissement et d'autres phénomènes, on va voir que ça commence à peser. Or, les roches océaniques sont plus denses. Alors, on va dire la densité 2,9 kilos par litre. Et par contre, les roches continentales, c'est 2,8 kilos par litre. Donc, quand vous avez l'océan qui s'alourdit comme ça, et à un moment donné, il devient tellement lourd que, pfft, il plonge.
Et ça change. À un chiffre près, ça change tout.
Ah oui, ben sur des millions de kilomètres, enfin de kilomètres, oui, des centaines de milliers de kilomètres carrés, donc de kilomètres cubes aussi, parce que c'est épais quand même, ça fait quelques 10, 15 kilomètres. Et donc à ce moment-là, ça plonge. Alors ça plonge ou bien l'océan qui est entre Europe et Afrique, ou bien il plonge sous l'Afrique, ou bien il plonge sous l'Europe. Là, il a plongé sous l'Afrique. Et aujourd'hui, on est donc à la fin de cette histoire, puisqu'on le retrouve au milieu de la chaîne de montagnes. Donc, le cinquième épisode dont je veux parler est arrivé, mais l'océan alpin n'a pas été entièrement englouti. Il en reste un morceau. Il est là-haut, entre Montgenèvre et Servières, en partie en Italie aussi.
Et on va parler de ce qu'il reste, ce qu'on peut encore observer aujourd'hui.
Eh ben oui.
Mais avant cela, une pause musicale. On va écouter une musique de votre choix, Raymond.
Volontiers.
Les copains d'abord, de Georges Brassens.
Thank you. Non, ce n'était pas le radeau de la Méduse, ce bateau, qu'on se le dise au fond des ports, dise au fond des ports. Il naviguait en perpénard sur la grand-mare des canards et s'appelait les copains d'abord, les copains d'abord. Ces fluctuates nec mergitures, c'était pas de la littérature, n'en déplaise aux jeteurs de sorts, aux jeteurs de sorts. Son capitaine et ses matelots n'étaient pas des enfants de salauds, mais des amis franco de port, des copains d'abord. C'était pas des amis de luxe, des petits castors et pollux, des gens de Sodome et Gomorre, Sodome et Gomorre. C'était pas des amis choisis par Montaigne et la Boétie, sur le ventre ils se tapaient fort, les copains d'abord. C'était pas des anges non plus, l'évangile il l'avait pas lu, mais il s'aimait toute voile dehors, toute voile dehors. Jean-Pierre, Paul et compagnie, c'était leur seule litanie, leur credo, leur confiteor, aux copains d'abord. Au moindre coup de Trafalgar, c'est l'amitié qui prenait le quart, c'est elle qui leur montrait le nord, leur montrait le nord. Et quand ils étaient en détresse, que leurs bras lançaient des SES, on aurait dit des sémaphores, les copains d'abord. Au rendez-vous des bons copains, y avait pas souvent de lapin. Quand l'un d'entre eux manquait à bord, c'est qu'il était mort. Oui, mais jamais, au grand jamais, son trou dans l'eau ne se refermait. 100 ans après qu'aucun de sort, il manquait encore. Des bateaux, j'en ai pris beaucoup, mais le seul qui ait tenu le coup, qui n'est jamais viré de bord, mais viré de bord. Naviguait en père peinard sur la grand-mare des canards et s'appelait les copains d'abord, les copains d'abord.
Copains d'abord de Georges Brassens, nous sommes dans le magazine du Bindi avec Raymond Sirio pour parler de l'océan alpin.
Oui.
Nous avons déjà expliqué la création de cet océan, sa disparition et désormais nous allons évoquer les vestiges que l'on peut encore voir. Ces vestiges, ils sont au Chenaillé, donc entre Montgenèvre et Servières, et on peut y accéder à pied.
Oui, absolument, absolument. Alors, il reste exactement les roches qui sont disposées de la même façon que dans l'océan Atlantique, encore une fois. Alors, ce sont des roches qui, je le répète, ne sont pas du tout les mêmes que celles des continents, qui sont des granites, tandis que là, on va avoir, par exemple, l'équivalent des granites, c'est les gabbros. Ça s'appelle le gabbro. Bon, alors, puis après, il y a des roches volcaniques qu'on appelle les basaltes. Alors, il y a un mot bien français, pilau la vase, qui nous dit que ce sont des boules ou des tubes de lave, de roches volcaniques, qui étaient des laves qui sont sorties du fond de la dorsale où naissait l'océan, qui sont sorties et puis qui se sont refroidies. Et quand une lave se refroidit, elle est à 1100 degrés dans un océan où il fait 2-3 degrés, ça se fige et ça donne effectivement ces boules. Alors on va dire, pourquoi des boules? Ben oui, alors là c'est de la thermodynamique, je ne suis pas compétent. Mais j'ai de l'imagination et puis de manière tout à fait provocatrice, je dis ben écoutez, quand vous prenez un aquarium et que vous soufflez dans l'eau avec une paille, est-ce que ça vous fait des triangles et des carrés et des rectangles et des parallélépipèdes? Non, ça vous fait des ronds. Voilà. Bon, après on met de la thermodynamique là-dedans et c'est du sérieux, mais je suis totalement incompétent pour le faire. Donc les roches sont là. Ce sont des roches, encore une fois, qui sont plus denses que les roches qui sont celles des continents, que les granites. Et on a, outre ces roches volcaniques en coussin, ces gabbros qui sont cristallisés, hein, cristallisés, parce que le granit, c'est plein de cristaux qui sont jointifs les uns avec les autres. Dans le gabbro, c'est pareil. Et puis, vous avez le tréfonds. Le tréfonds, qu'est-ce que c'est que le tréfonds? Alors, si vous montez au Chenaillet, vous allez arriver, par exemple, vous venez de Montgenèvre ou de Servières, vous finissez à un col, là où il y a la cabane des douaniers, qui a été utilisée en son temps pour contrôler ce qui passait, non pas de la drogue à l'école, à l'époque c'était pas ça, mais c'était des cigarettes, enfin du trafic, quoi, du trafic. Donc là, il y a des roches noires. Ah, oh, des roches noires. Noires, charbon. Oui, mais le charbon, quand vous le touchez, il vous salit les doigts. Celle-là, ne salisse pas les doigts. Alors, vous dites, mais qu'est-ce que c'est que ces roches noires? Alors, ces roches noires, c'est un peu compliqué, parce que, figurez-vous que ce sont les roches du manteau de la Terre. Or, vous avez entendu dire que la Terre, c'était comme un œuf, un noyau au cœur en fer, un manteau, le blanc, entre les deux, et la petite croûte autour, continentale ou océanique. Le manteau, normalement, il est à... Dans les océans, c'est quelques 10-15 kilomètres. Dans les continents, ça peut être 30-40 kilomètres. Et puis le manteau, ça peut être, dans les chaînes de montagne, 100 kilomètres. Donc il est loin, le manteau. Et là, il est là. Il est juste sous les roches océaniques. Les gabbros cristallisés, les basaltes volcaniques. Bon, et il est noir. Parce que normalement, il n'est pas noir. Quand vous allez le chercher, intact, il est fait de cristaux verts, des petits cristaux verdâtres. Ça s'appelle, d'un nom que l'on doit connaître désormais à partir du moment où vous l'avez entendu, la péridotite. La péridotite, dans la péridotite, il y a de l'olivine. Dans olivine, il y a olive. Bon, c'est donc une roche verdâtre avec plein de petits cristaux. Mais elle a subi cette péridotite qui était du manteau. Le manteau s'est retrouvé un petit peu... Il n'est pas monté, hein, mais on a enlevé ce qu'il y avait dessus, puisqu'on a creusé, on a étiré, on a creusé. Donc, à partir du moment où le manteau, il est plus assez profond, mais alors il est refroidi. Mais puis il y a de l'eau pas loin, et dans ce cas-là, il se transforme en serpentinite. Les roches noires sont des serpentinites. C'est des roches du manteau, refroidies et hydratées. Vous savez, hein, moi je suis costaud, hein. Je prends une roche comme ça, je la presse, il sort un verre d'eau. Parce que c'est très hydraté. J'exagère un peu, mes forces, ma faiblesse, c'est d'exagérer. Bon, mais enfin, Marseillais, toujours. Marseillais, un jour, Marseillais, toujours. Bon, donc, on a ces roches-là. Donc, vous avez ces roches-là qui constituent le tréfonds. Et puis après, en dessus, vous avez les roches océaniques, que sont les gabbros, les basaltes. Alors, c'est un peu plus compliqué que ça, géométriquement. Mais c'est exactement ce qui se passe dans l'océan Atlantique. Vous les voyez comme ça. Aujourd'hui, alors l'océan Atlantique, c'est cher. Faut aller faire plonger, faut faire des sondages. C'est pas possible. Là, vous le faites à pied, à pied. Vous faites la balade à pied. C'est pas une balade, c'est une excursion. Ça veut dire une excursion géologique. On y va pour travailler. Dieu sait si on emmène des élèves, on en emmène 10 000 par an. Hein. On a pas mal de classes qui viennent, mais qui viennent de toute la France. Hein.
Et pourquoi viennent-ils ici sur ce site?
Parce qu'il est intact. Parce qu'il n'a pas été abîmé.
Et comment ça se fait qu'il n'a pas été abîmé?
Il n'a pas été abîmé parce que quand la mort de l'océan est arrivée, il y a eu comme une écaille qui a échappé. Donc, comme cette écaille a échappé, elle n'a pas pu descendre. Elle est restée en superstructure. Et elle est posée comme ça sur notre continent aujourd'hui. Elle est là. En dessous, vous avez le continent européen. Des roches qui n'ont rien à voir, c'est des roches sédimentaires en plus, des calcaires, des dolomies, enfin des machins. Donc, mais qu'est-ce que c'est que ce machin? Mais ça, c'est formidable, parce que comme il n'a pas été abîmé, oh, vous dites, oui, mais attendez, vous pouvez dire, ouais, il n'a pas été abîmé, d'accord, je vois ça, c'est pas abîmé. Non, même pas! Juste cette petite transformation, mais c'est ça reste les roches d'origine un peu transformées, mais c'est tout. Mais dans le fond océanique de l'Atlantique, il est aussi transformé en serpentinite. Bon, il y a pas de raison. Donc vous avez tout ça qui est là. Et alors quand je disais unique, c'est parce qu'en plus quand Plus tard, on avait un espace qui faisait au total 1200 kilomètres. Hein, et puis on a serré. Il en reste 200. Dans les 200 qui restent, eh bien, c'est là que se retrouvent les reliques de ce qui était sur 1200 kilomètres, le continent européen, le continent africain, l'océan. Là, pour nous, l'Europe, c'est Valouise. Pour nous, l'océan, c'est le Chenaillet et puis c'est le Kera. Entre les deux, ben, vous savez, qu'est-ce que vous avez entre un continent et un océan? Vous avez un rivage. C'est le Briançonnais. C'est la vallée de la Durance. Donc là, vous avez ça et vous avez tout intact. Alors, mais oui, mais quand ça s'est serré? Eh bien, la chance extraordinaire, c'est un miracle. C'est un miracle géologique. Parce que quand ça a commencé à... Lui, il était en superstructure. Alors, il aurait dû être balayé par des roches qui venaient d'Italie, qui allaient vers la France. Là, tout ça, c'était parce que la force de fermeture de l'océan et la force de création de nos territoires, de notre géométrie des territoires, elle vient de l'est. Donc, eh bien, là, il y avait deux grandes fractures, hein, ce qu'on appelle des failles normales. C'est-à-dire que vous avez une cassure et puis ça s'effondre. Or, le Chenaillet, il a la Serverette d'un côté, au sud, et au nord, il y a la Durance qui est naissante. Donc, vous avez deux failles, et que fait notre océan qui était au milieu? Il va au fond. Donc, les autres passent par-dessus sans l'abîmer.
Et il y a eu d'autres endroits où il y a eu cette destinée d'un océan, cette disparition d'un océan avec des vestiges qu'on peut encore voir?
Alors, pour l'océan Pacifique, on a notamment en sultanat d'Oman, des reliques d'un fond océanique pacifique. Mais il a rien à voir avec nous. Il va faire 20 centimètres par an. Ça avance trop vite. Donc, par contre, nous, on a là une relique unique, parce que c'est la seule relique correspondant à l'océan Atlantique, totalement préservé, totalement conservé. Alors, il y a des morceaux un peu ailleurs, hein, il y en a en Corse notamment, mais en Corse, ils sont un peu les uns à côté des autres. C'est magnifique, hein, mais c'est un à côté des autres, alors que nous, ils sont bien géométriquement compatibles, quoi. Donc voilà, et ben écoutez, c'est dans les programmes des lycées depuis 1983, et on a poussé dans les programmes à l'enseigner de plus en plus et de mieux en mieux. Enfin, la géologie, dans les années 2000, on a mis de la géologie au baccalauréat, il n'y en avait pas avant, il n'y en avait qu'en première, etc. Et aujourd'hui, dans les programmes actuels, qui datent de quelques années, il y a les ophiolites. Ah mon Dieu, les ophiolites.
Ah, qu'est-ce que c'est?
Ben, les ophiolites, c'est les océans fossiles, en gros.
D'accord.
Donc, voilà. Et il y en a partout, mais comme ça, il n'y en a pas. Il est le seul. Parce que y en a pour l'océan Pacifique, comme en Oman, mais il n'y en a pas pour l'océan Atlantique. Donc là, vous êtes tranquille, vous avez une pépite, faut la garder. Et donc, tous ceux qui montent au Chenaillet pour promener ou pour travailler, ils doivent suivre les sentiers, ne pas prélever de roches sur les sentiers, respecter ce site, d'ailleurs que je crois que la communauté de communes a décidé de créer une réserve, à l'instar de celle qui a été faite au Parsias, de manière à ce qu'on préserve, qu'on aménage, qu'on améliore. Nous avions fait au niveau de l'association des stations de lecture des paysages et aussi de regarder les roches, les objets intéressants. Il me semble quand même, vous avez parlé de fossiles.
J'avais une question, j'attendais que vous finissiez. Allez-y. Il y avait de la roche, mais il y avait aussi de la vie dans cet océan. Quelle était cette vie et peut-on encore l'observer?
Alors oui, c'est simple. On va justement, toujours dans le massif, il y a un endroit qui s'appelle le Rocher de la Perdrix. Alors c'est gentil, mais ça en réalité, c'est un blocos, la guerre, la ligne Maginot. Bon. Donc ce Rocher de la Perdrix, on voit là des roches qui sont des roches sédimentaires. Ces roches sédimentaires se sont déposées sur le fond de l'océan alpin, quand il est né. Et parmi ces roches sédimentaires, il y en a qui sont faites... De l'accumulation de squelettes de, vous savez, les petites bébêtes, les microbes du plancton, là. Bon, quand le microbe meurt, puisqu'il vit entre 0 et 1 mètre, ben la coquille, elle tombe au fond. Et ça, ce sont des fossiles qui nous donnent des renseignements, ce sont des fossiles qui nous disent, ben moi, aujourd'hui, je vis, il y a chané d'autres espèces, mais je vis dans l'eau salée. Ah ben oui, c'est bien l'eau salée. Ah, puis je vis à grande profondeur. Ah bon ? Parce que on avait les objets, mais les fossiles nous ont permis de confirmer que c'était pas un lac, c'était pas un grand lac, que c'était un océan.
Parce qu'il n'y a plus de traces de sel, par exemple ?
Alors, le sel, non, il n'y a plus de traces de sel. Il y a ce que l'on peut trouver au niveau des roches. Dans les roches, dans les transformations qu'elles ont, qui ne sont pas apparentes, dans les roches, il y a plus de sodium que de besoin. Normalement, il y en a moins dans ces roches-là. Mais là, il y en a plus. Donc, c'est que sodium, chlorure de sodium. Donc, on a des raisons de penser ça et que ça s'est passé comme ça. C'est miraculeux. Quand vous faites ça, c'est merveilleux. Moi, j'ai fait le prof là. Mais écoutez, même les élèves les plus réticents, vous savez, la géologie, les élèves, ils veulent faire de la biologie, la vie. Bon, mais la géologie... Il dit, ah ben oui, mais finalement, c'est pas mal, quoi. Pourquoi c'est pas mal ? Parce qu'on vient le voir, parce que voilà. C'est concret. Bravo, merci.
Mais en revenant sur la biologie, il n'y avait pas de grands animaux, de grands êtres vivants ?
On n'a pas de grands organismes. D'ailleurs, pour la conférence de vendredi, qui sera payante, hein, parce que on donne des livrets, des compléments, pour essayer de que ce soit... concret, ils auront deux livrets, un poster.
Quel est le tarif ?
On demande 10 euros. Je parlerai de ça avec un diaporama qui doit faire 70 images. Et puis, il y a une partie aussi, réponse aux questions, etc. Voilà.
Et ce sera le mot de la fin. Vous pouvez retrouver tous les événements de la Fête de la Science, dont ceux de la Maison de la Géologie, sur le site de la Fête de la Science. Vous pouvez taper sur Internet, vous tomberez tout de suite dessus. Merci Raymond d'être venu nous
parler. Merci à vous, je suis tout à fait honoré et charmé d'être venu vous parler. I'd like to be under the sea, in an octopus's garden, in the shade. He'd let us in, knows where we've been, in his octopus's garden, in the shade. I'd ask my friends to come and see. In the shade, we would be warm below the storm, in our little hideaway beneath the waves, resting our head on the seabed, in an octopus's garden near a cave. Pussy's garden in the shade. We would shout and swim about the coral that lies beneath the waves. Oh, what joy for every girl and boy, knowing they're happy and they're safe. We would be so happy, you and me, no one there to tell us what to do. I'd like to be